C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
2035, c'est l'année où en Afrique, il y aura autant de citadins que de gens vivant dans les zones rurales. Une transformation qui s'opère à une vitesse inconnue avec l'exode rural, mais surtout grâce à la croissance démographique. Si vous ajoutez à cela la croissance économique et l'impact menaçant des changements climatiques, vous l'avez compris, les villes africaines vont devoir s'adapter à des mutations gigantesques en un temps record. Y sont-elles prêtes? C'est un sujet qui a été largement débattu ici au deuxième sommet Climate Change qui se déroule à Agadir au Maroc et nous en parlons avec nos invités. Jean-Pierre Elongbassi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de CGLU, Cité et Gouvernement Locaux Unis pour l'Afrique. Fatima Harib, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste en développement durable, chargée de mission, développement durable et grands projets et coordinatrice du comité scientifique à l'université Radayad de Marrakech. Frédéric Vallier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du Conseil des communes et régions d'Europe. Vous nous expliquerez dans un instant en quoi consiste cette organisation. Et avec nous, deux maires, hein, parce qu'on ne peut pas parler évidemment des villes sans avoir des maires. Mohamed Sefiani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire de Chefchaouen, qui est une ville de 50 000 habitants au nord du Maroc. Et Pierre Adéchi, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes maire de Sakété, ce qui est une ville de 114 000 habitants dans l'est du Bénin. Merci à tous de participer à cette émission. Alors, messieurs les maires, tout d'abord, par exemple, monsieur Sefiani, quels sont les défis les plus urgents en lien justement avec les changements climatiques ou aggravés, j'ai envie de dire, par les changements climatiques auxquels vous devez faire face dans votre ville?
Bien sûr, les changements climatiques, ils concernent le monde entier, ils concernent l'Afrique, ils concernent le Maroc et nous aussi, dans la ville de Chefchaouen, on est concernés. Les inondations, nous faisons partie d'une zone la plus pluvieuse au niveau du Maroc. Et ce qui est grave, parfois, on a parfois une pluviométrie dans un temps qui est très court. On reçoit beaucoup, beaucoup de pluie. Et ça, bien sûr, c'est un risque. Et d'ailleurs, l'année dernière, il y a eu même des glissements de terrain pour un quartier complet, un quartier très peuplé au niveau de la ville de Chefchaouen. Et parmi les causes, bien sûr, c'est les eaux pluviales et les changements, bien sûr, des parcours des eaux pluviales dus à cette pluviométrie un peu qui est record. Il y a aussi la sécheresse, donc c'est paradoxal. Donc en même temps, il y a le risque d'inondation parce que on peut avoir des mois ne pas avoir de pluie et après, c'est, soudainement, il y a beaucoup de pluie, mais il y a sécheresse. Et comme vous savez, au Maroc, nous aussi, et deux années consécutives avec une pluviométrie qui n'est pas bonne, ça impacte directement l'alimentation en eau potable des citoyens, même si on est la zone la plus pluvieuse au niveau du Maroc.
Pierre Adéchi, dans votre ville de Sakété, donc au Bénin, 114 000 habitants, c'est important. Je parlais de croissance démographique, j'imagine que la ville continue de grossir de plus en plus dans ce contexte et avec les changements climatiques. Vous, quels sont les défis auxquels vous devez faire face?
Merci madame, les défis sont importants au niveau donc de la ville de Sakété, comme je l'ai dit d'abord. D'abord les défis donc liés à la sécheresse.
Vous voyez des points communs?
Oui, oui, des points communs, les irrégularités des pluies. Et lorsque les pluies viennent aussi, c'est pour de manière désastreuse pour détruire les plants, les végétations.
Vous avez des inondations en ce moment?
Oui, oui, il y a des inondations qui se répètent. Et la plus importante tâche qui nous revient en tant que maire de la ville de Sakété, c'est la gestion des ordures. Les populations ne sont pas informées, ils ne savent pas qu'il faut changer de comportement pour éviter le dérèglement climatique. Donc ce travail-là est très important. Il faudrait qu'on puisse informer une population à la base. Et cette formation-là passe par trois niveaux. Ce qu'il faut faire immédiatement, à savoir la gestion des ordures, planter beaucoup d'arbres pour régler donc le problème du climat, et maintenant informer la jeune génération. Donc il faut donc intégrer dans les éducations, au niveau des écoles et des collèges, la notion donc de lutte contre le dérèglement climatique. C'est évident pour que la jeune génération puisse prendre conscience déjà de ce qui va se passer après, pour qu'à l'avenir, on n'ait plus donc de choses.
De nombreux défis. Fatima Harib, est-ce que ces réalités présentées par ces deux maires résument, selon vous, les défis auxquels les villes africaines, plus généralement, doivent faire face?
Oui, certainement. En écoutant les deux maires, on voit bien que l'Afrique et les villes africaines en particulier souffrent et ils ont les mêmes, ils font face pratiquement aux mêmes défis, pas uniquement sur la question climatique, mais les défis socio-économiques d'abord et puis les défis climatiques. On voit bien, comme vous l'avez bien annoncé dans votre introduction, le premier défi, c'est la croissance démographique et une croissance démographique urbaine. Donc ça se passerait dans les villes. Et ça, c'est au cœur du sujet de cette rencontre et des plusieurs sessions qui sont organisées au niveau de ce sommet. On voit bien à travers les deux interventions que finalement les questions climatiques ils sont là, mais les décideurs, parce que les maires sont des décideurs, ils sont aussi préoccupés par les attentes légitimes de la population, des attentes en termes d'eau, l'électricité, les services sociaux, santé, éducation, etc.
Mais avec des mutations qui doivent être extrêmement rapides parce que la croissance démographique met une pression très importante.
Il faut agir en tant que décideur, mais le défi majeur en termes d'éducation, ça c'est important et ça a été souligné, l'éducation. Et avant toute décision, avant toute politique, il faut que les citoyens et les décideurs politiques, les acteurs politiques, ils doivent être conscients des enjeux climatiques.
Donc il faut former les décideurs.
Ça a commencé il y a quelques années, on voit plus de programmes de formation des décideurs, mais en termes d'éducation, et ça c'est très important.
Ça c'est les professeurs d'université qui parlent.
C'est pas uniquement le professeur, l'éducation au sens le plus, l'éducation au développement durable, l'éducation à l'environnement, d'ailleurs l'éducation à l'environnement est devenue une thématique prioritaire des Nations Unies, ça a été adopté lors de la COP22, donc pour montrer l'éducation, comme l'importance des villes, on est passé de ZOMD aux EDD pour montrer certaines thématiques prioritaires aujourd'hui dont
l'objectif du millénaire pour le développement à objectif du développement durable. Faut décrypter un petit peu.
Les OMD, les EDD, on est passé de 8 objectifs globaux à 17 où on voit très bien les villes, on voit les changements climatiques. Si on regarde la cartographie de l'Afrique, on constate en gros que les défis, ils sont les mêmes, les défis, ils sont les mêmes, mais il y a des priorités pour les zones côtières, là où il y a plus de risques climatiques, il y a des endroits qui sont prioritaires en termes d'action. Mais globalement, toutes les villes africaines doivent faire face aux, ils sont vulnérables. C'est le terme que je cherche, une grande vulnérabilité au changement climatique.
Jean-Pierre Elongbassi, du fait d'être secrétaire général de CGLU depuis longtemps, j'ai envie de dire, vous avez vu cette évolution et vous sentez la pression de plus en plus forte sur les villes africaines?
Vous savez, on peut décrire la situation comme préoccupante ou comme une opportunité. Je crois que le titre de ce sommet est très intéressant, Climate Change. Alors, vous pouvez le traduire à « I cannot take a chance », je ne peux pas prendre le risque, ou « on a une chance d'agir ». Et je crois que c'est ça qui est important. Il faut regarder les changements qui interviennent dans les villes africaines comme des changements qui sont un défi, mais ces défis sont relevés, plus ou moins bien, mais ils sont relevés. Par exemple, beaucoup de gens se demandent comment est-ce qu'une ville comme Lagos accueille 500 000 habitants supplémentaires par an. C'est de la magie. Vous dites quelque chose comme ça à Bordeaux, on vous dit que ce n'est pas possible. Eh bien, à Lagos, c'est possible. Comment? Parce que les populations, bon an, mal an, trouve des solutions. Est-ce qu'elles sont toutes adaptées? Certainement pas. Mais ceci veut dire que, comme le disait le maire de sécurité, si les gens sont informés, et ça c'est très important de donner la bonne information aux gens, c'est-à-dire ne vous installez pas dans les lieux supérieurs des cours d'eau. Essayez d'éviter cela. Ce n'est pas parce que vous avez besoin de terrain que vous devez vous installer n'importe où.
Il faut faire des plans d'urbanisation.
Il faut probablement organiser l'installation des gens de façon plus intelligente en tenant compte des risques climatiques. Mais en même temps, les gens s'adaptent au risque climatique et créent des solutions. Et donc il ne faut pas regarder la question climatique uniquement sous l'angle des risques, comme si on était là tout inquiet. Il y a des gens qui inventent des solutions pour s'adapter. Et c'est autant d'opportunités de création d'emplois, d'occupation des jeunes, de donner une raison même de vivre aux jeunes.
Oui, les défis des villes, parce qu'il y a plein de choses à inventer dans tous les domaines que l'on a énumérés. Frédéric Vallier, finalement, ces défis que les villes africaines doivent affronter sont des défis que les villes européennes ont connus à une vitesse beaucoup plus lente et dans un contexte moins...
Qu'elles continuent à connaître. On a bien vu ces dernières semaines tous les phénomènes climatiques qui ont traversé le monde. La mousson en Asie, les cyclones en Amérique et aux Antilles. Encore la semaine dernière, en Italie, il y a eu une dizaine de morts en Toscane à cause d'inondations supérieures à la moyenne, comme on dit. Et on voit bien que chaque année, moi, vous savez, je suis les questions climatiques depuis plus de 10 ans. On était parmi les premiers à participer au COP. Donc pour négocier au nom des gouvernements locaux la place
des conférences climat des Nations Unies.
Tout à fait. Et à l'époque, il y a 10 ans, on nous regardait comme des extraterrestres. On disait, mais pourquoi vous êtes là? Ça vous concerne pas, c'est les États. Et puis progressivement, on a vu que les villes étaient en première ligne et qu'on attendait des villes qu'elles réagissent, qu'elles inventent des modèles de développement nouveaux pour à la fois s'adapter aux risques climatiques, mais en même temps être la solution de la lutte contre le changement climatique. Et les villes européennes sont confrontées, pas comme les villes africaines, parce qu'elles ont plus de capacité de résilience peut-être, ou d'adaptation.
Et de moyens.
Mais en tout cas, et de moyens évidemment. Mais en tout cas, elles sont concernées au premier chef. Et le message qu'on est venu apporter ici, c'est que la lutte contre le changement climatique, elle ne peut se construire que dans la solidarité globale. Et qu'il n'y a pas, on ne peut pas différencier les enjeux. On le dit souvent, mais le défi climatique ne connaît pas de frontières.
Oui, parce que les problèmes sont potentiellement les mêmes et des solutions peuvent être partagées. Les solutions inventées aussi dans les villes du Nord par les villes du Sud. Et inversement, je vous propose d'écouter le témoignage de Jean-François Garon. Il est maire de Losangoël, une commune de 6000 habitants dans le nord de la France.
Tous nos projets, on les élabore avec les habitants, on les discute. Pour les gens, quand on arrose un terrain de football avec de l'eau de pluie, ils disent ben c'est le bon sens. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Il y a plein de choses comme ça où, pour les habitants, ce qu'on fait, c'est du bon sens. Isoler des maisons pour qu'elles dépensent moins de chauffage, c'est du bon sens. Ne pas développer des produits chimiques partout et garder les abeilles, c'est du bon sens. Ne pas être obligé de tout imperméabiliser et faire en sorte que les eaux s'infiltrent quand on fait des nouveaux lotissements, c'est du bon sens. Pour les gens, c'est pas... Le développement durable, ce n'est pas de la super technologie, ce n'est pas quelque chose de futuriste. C'est avoir une pensée de la ville où finalement on revient à la raison, dans la façon d'arrêter de gaspiller, où on revient à la raison dans le fait de retrouver par exemple du dialogue avec l'agriculture, d'utiliser les ressources locales. C'est du concret.
Mohamed Sefiani, vous êtes maire au Maroc. Comment vous réagissez à ces propos d'un maire du nord de la France ?
Sont des propos très pertinents et s'ils s'appliquent en France, ils s'appliquent aussi dans d'autres villes.
Mais ça va dans le sens de ce que disait Frédéric à l'instant.
Exact, parce que comme a dit Frédéric tout à l'heure, avant tout ce qui était développement durable, climat, c'était des affaires des États. Et si on va un peu plus, on va aller à la société civile. Mais il y avait un étage important, les gouvernements locaux. Sachant qu'ils ont la légitimité, ils représentent les citoyens. Donc on ne peut pas ne pas parler des gouvernements locaux, donc des villes, des provinces, des régions, en plus de la société civile, des secteurs privés. On est tous ensemble face à des causes d'humanité, il faut dire.
Pierre Adéchi, vous partagez ce que disait le maire de Losangoël à l'instant, c'est-à-dire que les gens, finalement, si on leur explique bien, tout ce qui est développement durable dans une ville, c'est du bon sens. Donc il y a une adhésion.
Tout à fait, l'adhésion ne peut pas se négocier. On ne peut plus s'amuser avec les dérèglements climatiques. Il faut vite prendre les responsabilités, que ça soit une conscience généralisée. On ne peut plus se mettre à part les cas maintenant, gouvernant comme gouverné. Le collectif local aussi doit s'impliquer fortement et qu'on s'assimilise et qu'on puisse prendre les décisions qu'il faut pour arrêter déjà donc, ces drames qui se produisent déjà. Aucun pays n'est épargné aujourd'hui sur la planète. Nous sommes tous concernés.
C'est pas du vent. Pour nous écrire, c'est pas du vent @rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes à Agadir au Maroc à l'occasion du deuxième sommet Climate Change qui réunit plus de 5000 personnes de la société civile venues de 80 pays, toutes engagées dans la lutte contre les changements climatiques et la protection de l'environnement. L'un des thèmes centraux de ce sommet a été les villes africaines. Jean-Pierre Elongbassi, des villes qui forment des réseaux comme CGLU, Cité Gouvernements Locaux Unis d'Afrique, dont vous êtes le secrétaire général. Mais l'idée, c'était d'aller plus loin et de créer des réseaux complémentaires. Alors expliquez-nous ce qui a été lancé ici à Agadir.
On a lancé un appel à ce que les villes africaines rejoignent la Convention des maires pour le climat et l'énergie. Cette convention, elle est née en Europe et des chapitres ont été mis en place dans la Méditerranée, les pays méditerranéens, puis maintenant en Afrique au sud du Sahara.
Alors elle consiste en quoi cette Convention des maires ?
Elle consiste.
Pourquoi est-ce qu'il faut la rejoindre ?
Mais parce qu'elle consiste à justement à ne plus ignorer le risque climatique dans ses plans et stratégies. Il consiste à regarder tous les investissements qu'on fait à l'aune du risque climatique. Elle consiste à regarder tout le potentiel de changement, y compris en termes de création d'emplois, en termes de développement économique, à l'aune des opportunités offertes par le changement climatique. Donc, c'est une convention qui s'efforce de faire entrer les collectivités territoriales d'Afrique dans une courbe bas carbone, dans une économie qui va vers le développement durable et la résilience des territoires. Et c'est important que ceci ne soit plus une curiosité. Il faut qu'on lance un appel pour que tout le monde rejoigne cette convention.
Pour échanger notamment sur les bonnes pratiques, comme on
dit. Profiter. Ouais. De ce que les uns et les autres font déjà de bien et essayer de se former mutuellement.
Frédéric Vallier.
On a évoqué le fait que la Convention des maires est née en Europe et quand elle a été mise en place au niveau européen, l'idée c'était de montrer que les villes, les communes, pouvaient être plus ambitieuses que les États dans les réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y avait des objectifs qui ont été fixés de moins 20% à l'horizon 2020, moins 30% à l'horizon 2030. Et pour compléter ce travail, parce qu'en en Europe, la Convention des maires mobilise plus de 6000 collectivités territoriales, l'Union européenne nous a demandé au Conseil des communes et régions d'Europe, d'aider à lancer un mouvement au niveau international, et notamment en Afrique subsaharienne. La Convention des maires s'est d'abord élargie au bassin méditerranéen, aux zones voisines de l'Europe, pour soutenir un mouvement aux portes de l'Europe, et puis elle s'est internationalisée. Alors évidemment, l'objectif en Afrique n'est pas de demander aux communes de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, parce qu'elles sont déjà très, très basses. Mais
même si elles vont monter et que malgré tout, il faut y faire attention.
Non, mais justement, c'est là l'enjeu, c'est de voir comment on peut inventer un modèle de développement qui soit sobre et qui permette à l'Afrique de profiter du développement auquel elle a droit, évidemment, mais en même temps, en étant, j'allais dire, plus intelligent que nous autres Européens, on le fut dans le passé, en utilisant tous les outils et toute la science et toute la connaissance qu'on a acquise aujourd'hui pour créer un modèle de développement qui soit durable, c'est-à-dire qui permette aux populations de vivre, d'évoluer, d'acquérir des biens, du confort.
Oui, alors j'ai envie de dire, c'est superbe en théorie, mais dans les faits, tous les jeunes de toutes ces villes africaines rêvent de quoi ? Ils rêvent de Dubaï ?
Je ne sais pas si les jeunes Africains rêvent de Dubaï, j'espère
non.
Que non.
Ah, je vous sens réagir là, ouh là là.
Je ne pense pas, d'abord parce que si c'est ça un rêve, ça reste un rêve. C'est un dirigeant rêve de Dubaï. La plupart des jeunes construisent leur ville chaque jour et ils savent que ce n'est pas Dubaï qu'ils construisent. Donc les jeunes d'Afrique rêvent de villes dont ils soient fiers, où ils puissent bien vivre et qui leur donnent une identité. Et souvent ce qui manque, c'est qu'on ne voit pas bien comment, et Chef Chaouen est un bon exemple pour ça, l'identité vient essentiellement de la dignité et de la culture. Et beaucoup de villes ne comprennent pas que c'est leur manière de répondre aux enjeux qui leur donne une identité. Et une des manières, je prends les cas des villes marocaines, la manière dont elles sont suggérées dans le temps, les questions d'eau, leur donne une identité particulière par rapport à un environnement où le stress hydrique est quotidien.
Oui, mais regardez, par exemple, si on parle des villes de l'ouest de l'Afrique, suite à la colonisation, elles se sont massivement construites avec, par exemple, des constructions en béton qui ne sont pas du tout adaptées au climat. Donc aujourd'hui, il y a un retour de la volonté de rebâtir avec des constructions plus traditionnelles, mais c'est difficile de faire passer ça parce que faire construire sa maison en terre, ça ne fait pas très moderne.
D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui ont occupé, ceux qui ont construit les villes, dans le temps, on construit des villes à matériaux locaux. Les colons, quand ils sont venus, ont construit tous leurs bâtiments à matériaux locaux. Le problème, c'est l'industrie cimentière. Le problème, c'est l'industrie de la tôle. C'est pour ça que tout est lié. Vous ne pouvez pas parler de ville sans les fabricants de la ville, sans le secteur privé. C'est pour ça qu'il faut engager le secteur privé dans cette affaire-là, parce que sinon, vous pouvez prêcher ce que nous prêchons, et si une entreprise de ciment veut absolument pousser pour qu'on vende son ciment à travers les constructions et influence les assureurs pour dire que seuls les bâtiments en ciment peuvent être assurés. Vous voyez, le champ est vaste.
Hein. Mohamed Sefiani, d'où l'importance de la formation, justement, du développement d'alternatives économiques et industrielles.
Justement, et je reviendrai à cette idée ou cette question d'identité et d'implication de la société civile, des professionnels, des locaux. Nous, par exemple, à Chouchalon, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé tout d'abord un centre info-énergie. Et là, on informe, on sensibilise les enfants, les écoliers, les femmes, les jeunes, les moins jeunes. Seulement, c'est un an qu'on a démarré, mais on a fait beaucoup de choses. On a informé et sensibilisé plus de 5000 personnes.
Mais vous leur dites quoi, par exemple?
Nous dites comment utiliser l'usage de l'électricité, utiliser les lampes à basse consommation d'énergie, comment isoler, comment utiliser les matériaux locaux dans vos constructions, comment, et ça avec des échantillons.
Et du coup, vous avez les industries qui produisent ces matériaux adaptés, par exemple, à l'isolation aujourd'hui?
Il y en a déjà. Nous, par exemple, à 2 heures de Chouchalon, à Tanger, il y a une usine qui fabrique de l'isolation des matériaux isolants thermiquement, phoniquement, acoustiquement. Et ça, mais les gens ne le savent pas. Et c'est un matériau qui vient de chez nous, de la forêt qui entoure la ville. Et même, on va encourager des gens de s'installer au niveau local. On a même créé, dans le cadre d'une approche participative, un concept participatif de l'énergie, climat et développement durable. Et là, c'est extraordinaire parce qu'il regroupe des élus locaux, des professionnels, des acteurs de la société civile, des techniciens qui sont spécialistes, et on planifie ensemble, qu'est-ce qu'on va ensemble. Mais les gens, vraiment, et croyez-moi, ils ne partent pas de Dubaï, mais partent du Chefchaouen qui est durable, qui respecte les hommes, qui respecte notre passé, notre histoire, et dont ils veulent qu'ils restent fiers de ça.
Et là, je crois qu'on est vraiment dans la logique de la Convention des maires, parce que je vois Pierre Adéchi, maire au Bénin, qui vous écoute attentivement. Vous êtes en train de réfléchir, vous dites ça, je pourrais peut-être le faire dans ma ville, par exemple.
Oui, c'est évident. Quand M. Jean-Pierre parle donc de la politique cimentière pour construire, effectivement, l'ancienne technologie n'existe plus. Il n'y a plus de bâtisseurs au Bénin maintenant qui peuvent utiliser l'ancienne méthode qu'ont utilisé les colons. C'est parti. Vous voulez construire aujourd'hui, il faut du ciment. Il faut des maçons, il faut des personnes qui sont connues dans la modernisation donc des constructions. Donc c'est un problème. Que faire? Programmer donc nos populations avec l'ancienne méthode, c'est tout un problème, c'est difficile. Mais ce que nous disons, les villes africaines aujourd'hui, le Bénin en particulier, les villes du Bénin en particulier, le problème que nous avons, c'est le problème du flux démographique. Chaque année, ça croît. Et j'ai dit que le gouvernement doit prendre les mesures. Je vais citer le président français Macron, excusez-moi beaucoup, qui parle donc de la fois dernière, les gens critiquaient ça à tort et à travers, que l'Afrique a un problème de maternité. C'est la réalité.
La régulation de la croissance démographique
fait
partie, comme vous disiez tout à l'heure,
nombreuses, les demandes sont nombreuses,
de la prise en charge.
Détruit. Le dérèglement climatique est là. Alors que si nous mesurons les choses, nous les faisons de manière normale, on réduit la population de manière de ne pas parler de politique de natalité. Les solutions vont commencer pas à venir. Dans 10 ans, dans 20 ans, on sera beaucoup plus... Voilà.
Fatima Harib,
Oui, je trouve que c'est très important de conclure par, parce qu'on parle beaucoup de la croissance démographique en Afrique comme un risque, comme quelque chose de très négatif. La croissance démographique en Afrique, c'est aussi une grande chance, qu'on disait, parce qu'on ne peut pas penser concevoir un modèle de croissance dans un désert. Et là, c'est des jeunes, et c'est le capital humain qui est très important pour le développement durable. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que pour les décideurs, ils doivent comprendre des choses prioritaires. Donc, les villes, quand on parle des villes, les villes sont responsables du changement climatique. Les villes sont victimes du changement climatique et les villes sont acteurs importants dans la lutte contre les effets du changement climatique. Ça, c'est très important. Un point aussi à ne pas à rappeler, c'est l'implication. Je reviens au témoignage. L'implication des citoyens. Il ne suffit pas d'avoir les États, les gouvernements locaux. Il faut qu'il y ait derrière une implication, une adhésion des communautés locales. Parce que les maires sont aussi, sont d'une manière, d'une autre manière, c'est la voix des communautés, c'est la voix des en plus de la société civile, les associations. Donc je reviens à cette communauté. Il doit être conscient de l'importance des enjeux. Et il ne faut pas opposer les risques et les enjeux socio-économiques aux enjeux environnementaux. Il faut passer à une planification pour les villes, une planification urbaine où on intègre dans les politiques de développement cette adaptation. Surtout, on parle beaucoup en Afrique de l'adaptation au changement climatique. C'est très très important. Et la question qu'on n'a pas peut-être traité, c'est la question du financement.
Alors justement, j'allais le dire, on arrive à la fin de l'émission malheureusement, et la question des financements est évidemment essentielle. Ça fera l'objet d'une autre émission, parce que qui dit adaptation des villes dit moyens financiers. On parle de décentralisation, mais les villes africaines n'ont pas les moyens d'assumer toutes les tâches qu'on leur fait supporter aujourd'hui. C'était d'ailleurs l'un des objectifs de la déclaration des villes qui a eu lieu ici au sommet Climate Change. Que les villes sont un échelon essentiel et que du coup il faut qu'elles aient accès notamment par exemple au fonds vert pour le climat directement pour avoir des finances, mais ce sera l'objet, je suis désolée, d'une autre émission. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour l'installation de ce studio et la réalisation. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve demain, toujours au sommet Climate Change. Nous parlerons du lien entre migration et changement climatique et nous donnerons la parole à quelques-uns des nombreux jeunes qui sont venus ici à Agadir partager leur engagement. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres, et à demain, même planète, même heure.